Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Bienvenue sur Présence, très heureux de vous retrouver en ce jeudi, il est midi pour le sommaire, nous allons encore nous régaler avec l'interview du jour, nous allons nous poser la question, comment sont nommés les évêques? Et pour répondre à cette petite question, Isabelle Honnel sera avec l'abbé Arnaud Ducheroux, c'est dans 10 minutes. Votre sélection télé dans 20 minutes avec Emmanuel Hernandez, nous allons aller au Far West, prenez votre chapeau de cow-boy dans l'Occitanie. En deuxième partie d'heure, nous irons faire le tour des diocèses avec Isabelle qui nous accompagne dans le GR. C'est en fin d'heure votre chronique Église verte. Cette chronique a été inspirée par diverses initiatives et c'est dans trois quarts d'heure. Juste avant, l'essentiel de l'actualité avec Emmanuel Hernandez dans notre région. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vos titres en Occitanie. La présidente de la région Occitanie réclame au gouvernement des compétences dans le domaine de la santé pour une meilleure organisation. Elle propose donc de donner des pouvoirs aux régions, comme la responsabilité de décider des ouvertures et fermetures des filières médicales. Alstom remporte le marché de la troisième ligne de métro à Toulouse. Ce marché de 713 millions d'euros porte sur la construction du matériel roulant, du système automatique et de la maintenance de cette troisième ligne. La nef de la cathédrale de Montauban est fissurée. Il semble que le massif occidental comprenant la façade, la tribune d'orgue et les deux clochers a connu très récemment un important mouvement structurel qui l'a désolidarisé du reste de l'édifice. Les écoles de conduite manifestent aujourd'hui. Les écoles des Hautes-Pyrénées souhaitent faire remonter leur colère devant le manque de considération de l'État sur leur situation. Le conseil départemental de Haute-Garonne maintient la gratuité de son offre culturelle numérique, à l'exception des ressources cinéma, l'ensemble du catalogue est en accès libre. La radio numérique terrestre est lancée à Toulouse et à Montauban, son nom le DAB+. À Toulouse, 39 radios vont émettre en DAB+, des radios locales ou régionales déjà présentes en FM dans la ville rose, comme Radio Présence et des radios qui ne sont pas comme Pyrénées FM.
Merci Manolo, on vous retrouve dans une demi-heure pour l'essentiel de l'actualité dans notre région.
La météo.
Pour cet après-midi, un temps très agréable dans notre partie d'Occitanie. Il fera 15 degrés de moyenne. Demain, vous aurez des éclaircies tout près du gouffre de Padirac. Le mercure montera jusqu'à 12 degrés. Ainsi que dans le Gers, 14 près du cinéma de Muret et 11 au parc national de Gavarnie. L'après-midi, un ciel voilé, 19 près du Lot, à Auch, 20 pour Lourdes. Là où il fera très beau, ce sera à côté du musée Soulages à Rodez où le thermomètre affichera 15 degrés.
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Isabelle, vous vous intéressez au processus de nomination des évêques.
Et oui, vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, deux nouveaux évêques ont été nommés tout récemment, ce sont même des archevêques. Monseigneur Olivier de Germay est nommé archevêque de Lyon et dans notre région, c'est Monseigneur Bertrand Lacombe qui est nommé archevêque d'Auch. Alors il ne nous en fallait pas plus pour nous poser la question qui vous a sûrement déjà effleuré, comment sont choisis les évêques? Alors précisons que ceux que je viens de citer l'étaient déjà avant. Ce matin, on va s'intéresser au processus de nomination de ceux qui le deviennent pour la première fois. Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir l'abbé Arnaud Ducheroux. Bonjour Père.
Bonjour Madame.
Vous êtes prêtre de l'archidiocèse d'Auch, vous êtes l'auteur d'un livre sur notre sujet, il s'intitule « La part faite au gouvernement français dans le processus de nomination des évêques », c'est aux éditions Serre Patrimoine. Alors d'abord peut-être un mot sur votre nouvel archevêque, nous avons appris sa nomination le 22 octobre, depuis quand pensez-vous qu'il était au courant lui ?
Alors c'est à lui qu'il faudrait poser la question exactement, probablement était-il au courant dans les 15 jours qui ont précédé la date officielle, mais après, là je vous donne une idée un peu générale, mais il y a aussi du cas par cas, il y a des situations qui peuvent faire que ça prendra plus de temps entre le moment où le candidat accepte et le moment où la date est publiée.
Alors, on entend un léger décalage. Hein. Ce que je n'ai pas dit à ceux qui nous écoutent, c'est que vous êtes en ligne depuis Jakarta, c'est en Indonésie. Vous êtes en mission auprès du nonce apostolique et c'est peut-être l'occasion de nous rappeler ce qu'est un nonce, à quoi il sert. On va voir qu'il a un rôle central hein, dans la nomination des évêques.
Tout à fait, oui. Donc, le nonce apostolique, c'est l'ambassadeur du pape accrédité auprès de beaucoup de pays dans le monde qui ont des relations bilatérales avec le Saint-Siège. Et une de ses fonctions principales, c'est bien sûr la nomination des évêques, c'est-à-dire la recherche des candidats possibles, et puis l'instruction des dossiers, et puis la présentation des candidats au pape.
Alors on va y venir à ce processus juste avant par rapport au nonce, s'il y en a un pour chaque pays qui a des relations avec le Saint-Siège, c'est ça ?
Voilà, alors tous les pays qui ont, alors c'est pas tous les pays du monde, mais c'est une très grande majorité qui ont des relations diplomatiques avec le Saint-Siège ont, du coup, par réciprocité, un nonce apostolique. Alors, il n'y a pas toujours un nonce pour un pays. Il peut y avoir un nonce apostolique pour plusieurs pays. Par exemple, nonce apostolique en Inde et nonce apostolique pour l'Inde et le Népal. Voilà, c'est un petit exemple. Nous, en revanche, l'Indonésie, le nonce est nonce apostolique pour l'Indonésie, mais il est également accrédité auprès de l'ASEAN, qui est l'association des pays du sud-est asiatique. Donc là, évidemment, il n'y a pas d'évêque à nommer à ce niveau-là, mais c'est plus des relations, comme il y a un nonce auprès de l'Union européenne.
Alors, est-ce qu'on peut reprendre étape par étape ce fameux processus de nomination qui, évidemment, suscite toute notre curiosité ? Alors, la décision finale revient au pape. Hein, les évêques sont nommés par le pape, dit-on. Avant cela, il y a tout un processus. Est-ce que vous pouvez l'énoncer un petit peu par toutes ces étapes ?
Oui, je vais essayer d'être bref. Donc une fois qu'un siège est rendu vacant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'évêque, soit par démission, c'est-à-dire l'évêque a atteint l'âge de 75 ans, soit parce que malheureusement il est mort, ou un autre cas, l'évêque serait transféré sur un autre siège, eh bien il faut pourvoir un nouvel évêque. On va donc demander aux évêques de la province ecclésiastique, à l'archevêque métropolitain, au conseil des consulteurs du diocèse qui attend un évêque, et puis au collège des chanoines quand il y en a un, au chapitre de la cathédrale quand il y en a un vraiment effectif, on va demander à toutes ces personnes un peu de donner des noms de prêtres ou éventuellement d'évêques qu'ils connaissent, qu'ils pressentiraient correspondre à l'évêque souhaité pour le diocèse donné. Sachant que, alors ça c'est la pratique je pense la plus actuelle, mais ce que prévoit également le droit, c'est que normalement la conférence épiscopale d'un pays ou les évêques de leur propre chef puissent présenter à l'annonciature régulièrement des noms de prêtres qu'ils connaissent, qu'ils estiment pouvoir être appelés un jour à l'épiscopat.
Par expérience, et alors, pardonnez-moi, Père, c'est quoi, que dit le droit canon justement sur ces aptitudes requises pour être un évêque ? C'est quoi les qualités pour être évêque ?
Alors, il faut avoir au moins 35 ans, être prêtre depuis au moins 5 ans et titulaire d'un doctorat ou à défaut d'une licence canonique dans les principales disciplines que sont la théologie, le droit canonique. C'est les deux, enfin évidemment la théologie biblique, mais c'était dans la théologie. Donc les principales disciplines canoniques, donc avoir ou un doctorat ou une licence canonique, c'est-à-dire l'équivalent d'un master, pour parler avec les termes les plus compréhensibles par l'auditoire.
Et à partir de là, tout est possible.
Et bien à partir de là, il faut ensuite avoir brillé, si je puis dire, par quelques qualités pastorales essentiellement, mais aussi de gouvernement, enfin tout un tas de qualités que l'on espère être commune à beaucoup de prêtres, mais ensuite voilà, il y a aussi des critères qui font que certains prêtres seront plus adéquats pour certains sièges que d'autres, et donc là, il y a toute une enquête qui est menée et qui permet d'individuer plusieurs prêtres et petit à petit de pouvoir présenter des candidats au Saint-Père.
Vous avez dit il faut avoir brillé, ça veut dire que c'est une promotion d'être nommé et d'être choisi pour devenir évêque ?
Alors non, parce que on n'a pas la vocation à être évêque, on a vocation à être prêtre. Enfin, je veux dire, le Seigneur nous appelle à être prêtre. Ensuite, ce qui est certain, c'est que, alors il ne faut pas chercher, évidemment, qui cherche à être évêque, je pense qu'il sera déçu et décevra. Mais celui qui va se donner de tout son cœur, de toute son âme dans son ministère de prêtre, et donc au niveau du bien des âmes, des initiatives pastorales, de l'enseignement, de la conduite du troupeau qui lui est confié. Évidemment, s'il se fait remarquer par le zèle qu'il a, malgré lui, je dirais, il va peut-être finir par être repéré et être dans l'esprit de ceux qui auront à se prononcer, et du coup, son nom sera un jour ou l'autre peut-être donné. Mais évidemment, je pense et j'espère que les prêtres qui sont proposés à l'épiscopat n'ont pas tout fait pour y arriver. Et je pense que d'ailleurs, une personne dit souvent en riant que la mitre, en fait, c'est une couronne d'épines. C'est pour dire que la charge épiscopale est à la fois quelque chose de très beau, mais c'est une union peut-être suprême à la passion du Christ aussi, dans toutes les charges parfois difficiles que cela représente.
Alors, vous nous avez dit, pour reprendre les étapes, qu'il est demandé à la province ecclésiastique et au Collège des moines de donner des noms. Donner des noms à qui ?
Alors, au nonce apostolique. En fait, c'est le nonce apostolique qui interroge... Qui va mener l'enquête au nom du pape. Évidemment, le pape ne peut pas s'occuper de tous les diocèses du monde personnellement, donc c'est aussi pour ça qu'il y a un de ses représentants dans les pays. Et donc, c'est le nonce apostolique qui va diligenter cette enquête auprès de toutes les personnes et qui, à la fin, tranchera. C'est-à-dire, lui, parmi tous les candidats, en retiendra un certain nombre.
Alors, il s'agit de choisir un évêque, c'est pour un diocèse donné, pour un territoire ou pour l'Église plus largement ?
Alors, les deux, puisqu'un évêque devient successeur des apôtres, donc il entre encore davantage dans la dimension universelle de l'Église, mais on ne peut pas faire fi de réalité d'un diocèse concrètement. Donc, il y a d'une part des aptitudes générales qui collent pour être évêque dans l'Église universelle. Et il y a évidemment des aspects de la personnalité du prêtre ou de l'évêque choisi qui devront coller, si je puis dire, avec une réalité territoriale d'un diocèse qui sera plus rural, qui sera plus urbain, qui aura telle qualité ou telle difficulté, et où on sent que un caractère ou un autre sera peut-être plus à même de faire face ou de pouvoir développer des charismes selon les diocèses à pourvoir et selon les personnes à nommer.
Et alors, une fois que le nonce a fait son petit tour et a mené son enquête et a des noms, un vivier, en fait, c'est un petit peu prosaïque de dire ça comme ça, un vivier de noms, qu'est-ce qui se passe ? Il les donne au pape, c'est lui qui tranche sur quels critères ?
Alors, c'est-à-dire qu'avant de donner des noms comme ça au pape, donc va être établi un véritable dossier sur les prêtres retenus. Alors, normalement, il y a ce qu'on appelle la terna, c'est-à-dire le nonce va retenir trois noms parmi tous les noms qui ont été donnés. C'est-à-dire que les noms qui auront un peu une majorité de personnes favorables pour elles ou qui semblent avoir les qualités de ce que l'on lit des enquêtes, les qualités les plus à même de correspondre au siège à pourvoir, et bien le nonce va ensuite établir une laterna, donc une liste de trois noms, avec pour chacun donc un dossier très précis, et c'est ce dossier-là qui est envoyé à Rome pour que le pape puisse réellement choisir. On ne dit pas au pape, c'est celui-là qu'il faut nommer. On présente au pape, on dit voilà, pour ce siège, il y aurait ces trois noms retenus, avec évidemment, il peut y avoir un ordre proposé, comme il peut ne pas y avoir d'ordre, on peut dire c'est les trois, voilà. Mais donc le pape garde toujours sa liberté. Ça, c'est
et alors, à ce moment-là, quand le pape a fini par en choisir un, le prêtre est informé. Est-ce que ça arrive fréquemment qu'il refuse ? Et pour quelle raison ? Vous nous avez dit tout à l'heure que la mitre est une couronne d'épines, c'est ça ?
Oui. Eh bien, alors, une fois que donc, effectivement, le pape a nommé l'évêque, enfin, du coup, l'expression juste est à l'intention de nommer. Donc le nonce apostolique va convoquer le prêtre ou l'évêque, dans le cas des nominations dont vous faisiez écho au début de l'émission, et va lui dire, voilà, le Saint-Père vous nomme évêque ou archevêque de tel siège. Voilà, est-ce que vous acceptez ?
Ouais.
Alors, il est d'usage de refuser difficilement au Saint-Père ce qu'il nous demande.
Ouais.
Néanmoins, il peut y avoir des raisons tout à fait objectives qui peuvent... qui peut faire qu'un prêtre va décliner cette offre. Quoi qu'il en soit, il doit rédiger une lettre dans laquelle il accepte ou il décline la nomination souhaitée par le Saint-Père. Je crois, mais après moi je ne suis pas encore exposé à cela, mais je crois que ça arrive dans certains pays surtout, ça peut arriver régulièrement que des prêtres renoncent à être nommés évêques par, voilà, aussi, il peut y avoir aussi l'effroi devant la charge que ça représente aujourd'hui, quand on peut se retrouver évêque de diocèse avec peu de vocation, peu de prêtres et quelques problèmes à la clé.
Alors, il y a beaucoup de secrets et de confidentialité qui entourent ce processus. Bon, on imagine qu'il faille éviter les fuites, mais pourquoi toute cette confidentialité? Qu'est-ce que ça dit du sens de la nomination?
C'est pour conserver la liberté de toutes les parties, c'est-à-dire à la fois que le pape soit totalement libre de nommer qui il veut. Il peut arriver, alors c'est pour la France peut-être pas, mais dans certains cas où il y a des processus, parce que là je vous ai fait le schéma général, mais il y a un schéma complexe en parallèle qui est pour les pays dits de mission. Mais le pape peut très bien dire, parmi les candidats que vous me présentez, moi je trouve qu'il n'y en a aucun qui correspond à ce que j'attends pour ce diocèse. Donc je vous prie de refaire une nouvelle enquête. Donc si on avait déjà ébruité qu'il y avait tel prêtre qui était pressenti ou autre, la liberté est aussi faussée dès qu'on commence à faire courir des noms. Et également vis-à-vis du prêtre, de l'évêque pressenti, si son nom commence à courir de tous les côtés. Je pense que le secret, c'est aussi pour la grande liberté et que
le
Saint-Esprit...
Et alors la parfaite au gouvernement français dans le processus actuel de nomination des évêques, c'est le titre de votre livre aux éditions Serre Patrimoine. Vous posez la question de la part de la France laïque dans le rôle, quel rôle elle peut avoir dans la nomination, ça peut sembler étonnant. Et pourtant vous y avez consacré un livre, c'est quoi son rôle ?
Eh bien voilà, c'est une particularité française parce que pour le coup, aucun autre pays n'a les mêmes prérogatives que la France dans le monde. Alors ça fait suite à tout un tas d'échanges diplomatiques, de ruptures et de reprises de relations diplomatiques. Pour tout savoir, j'invite les auditeurs à lire ma thèse, c'est un bon livre.
Bien sûr.
Mais pour faire simple, donc le gouvernement français a demandé à avoir ce qui s'appelle le droit de regard pour toutes les nominations d'évêques en France hors diocèse concordataire. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Père a le désir de nommer un évêque et qu'il a déjà choisi son candidat, eh bien le nom du prêtre nommé est transmis aux autorités françaises, alors via le Quai d'Orsay puis le ministère de l'Intérieur, et ils ont un délai d'un mois maximum pour diligenter une enquête de ce qu'on appelle une enquête de politique générale, c'est-à-dire de s'assurer que le prêtre ou l'évêque qui serait de nouveau nommé ne présente pas de caractère qui pourrait venir à troubler l'ordre public.
C'est un droit de regard ou un droit de veto ?
Alors, droit de regard, parce que le Saint-Siège reste totalement libre d'accepter ou de décliner les remarques que pourrait formuler le Saint-Siège. C'est-à-dire que si jamais le gouvernement français disait non, nous ne sommes pas favorables à cette nomination, le pape peut très bien dire mais moi je maintiens. Et alors après tout ça, ce sont des discussions diplomatiques qui peuvent parfois aussi se régler avant d'arriver à ce terme d'une opposition claire. Il peut y avoir des discussions en amont qui sont du coup pas officielles et pas qu'on peut pas trouver en archives, mais qui peuvent avoir eu lieu dans l'histoire.
Merci beaucoup. J'invite tous ceux qui nous écoutent à se plonger dans votre livre passionnant, La part faite au gouvernement français dans le processus actuel de nomination des évêques. C'est aux éditions Serre Patrimoine. Alors, on avait eu cet échange à l'occasion de l'installation de Mgr Bertrand Lacombe, archevêque d'Auch. Elle devrait avoir lieu normalement le dimanche 22 novembre. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Père, d'avoir été en ligne
merci
avec nous
vous.
Ce matin depuis le bout du monde.
Dans 4 minutes, vous aurez la sélection télé avec ce soir un héros qui est bien connu des enfants à ne pas louper pour savoir qu'est-ce qu'il faut regarder en famille pour passer une bonne soirée. En attendant, le roi du rock, le temps regretté John Hallyday, nous fait un cadeau avec son titre « Mon plus beau Noël ». Bon appétit.
J'avais oublié à quel point on se sent petit. Dans les yeux d'un enfant, plus rien ne compte, juste sa vie. J'avais mis de côté tous ces instants qu'on croit acquis, ces instincts qu'on découvre, avec toi je grandis, moi aussi. Et voilà qu'à nouveau, je fais des projets dans ma vie. Pour te laisser du beau, rien que de l'amour, mais aussi. Je me prends à rêver qu'un jour tu voudras partager ce qui de près ou de loin dans ma vie a compté. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Il y a tellement de choses que j'aimerais te raconter. Pour te donner la force, le courage de tout affronter. Si je peux te transmettre ce formidable goût d'aimer, de tous les hommes, je serai le plus heureux, le plus comblé. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je voyez plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Je serai pour toi le père, celui sur qui tu peux compter. Ce que tu espères, je promets de te le donner. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attends. Toi mon amour, ma vie, mon étincelle, je suis le plus heureux, tu vois.
Présence à Saint-Gaudens, 94.1.
C'est l'agenda télé du jour avec Emmanuel Hernandez. Bonjour Emmanuel, qu'allons-nous regarder ce soir sur le câble?
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Florian. Ce soir, nous partons à la conquête de l'Ouest.
Ah, ça, c'est un film de cow-boy.
Exactement, Les 7 mercenaires, c'est ce soir à 21h sur France 3. Enfilez vos Santiago et votre chapeau de cow-boy et replongez-vous au 19e siècle en plein cœur de l'Ouest américain. L'impitoyable homme d'affaires Bartholomé Bogue charge ses hommes de semer la terreur et la désolation dans la petite ville de Rose Creek afin d'en chasser tous les habitants. C'est alors que Sam Chisholm, un redoutable homme de loi, fait son entrée en ville à la recherche d'un criminel. Une fois son affaire faite, il est sollicité par les habitants du village pour les aider à chasser Bogue et ses hommes.
Alors c'est sympa les cow-boys, mais moi je suis pas trop fan. Est-ce que vous auriez pas quelque chose de plus mystérieux ?
De plus mystérieux ?
Ouais.
Je peux vous révéler un secret.
Ah.
Un secret antique en plus. Enfin, moi, non. Les archéologues sur France 5, eux, ce soir le peuvent. Ils vous donnent rendez-vous à 20h50 pour lever le mystère autour du tombeau de Toutankhamon, c'est dans la vallée des rois, dans un petit bout de désert en face du Louxor, qui a été faite le 4 novembre 1922, l'une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps. Près de 100 ans après la mise au jour du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter, grâce aux dernières technologies de colorisation, ce documentaire va redonner vie, des couleurs aux images, aux photographies prises de la découverte et de l'inventaire des objets. Ces films immortalisés par le caméraman anglais Harry Burton offrent un témoignage spectaculaire et grâce à ces images d'archives, une révélation inattendue va bouleverser le monde archéologique.
Ah, j'adore l'Égypte et le monde oriental.
Alors si vous aimez le monde oriental, j'ai peut-être quelque chose pour vous, Florian.
Alors ne me dites pas que c'est Aladdin.
Si, c'est Aladdin, ce soir sur W9, mais vous êtes devin, non ?
Bah bien sûr, c'est surtout que j'ai les fiches en face de moi, donc du coup voilà.
C'était ce que je me disais. Ce soir à 21h, le génie de la lampe vous attend pour exaucer trois de vos vœux dans ce remake français de 2015 avec Kev Adams dans le rôle d'Aladdin, de la rigolade garantie et un beau moment passé en famille. Vous avez envie de vous faire peur, même si Halloween c'est déjà fini, je vous propose Split ce soir à 21h sur TMC. À Philadelphie, Kazé Cook doit rentrer en voiture lors de l'anniversaire d'une de ses camarades. Accompagnée par ses deux amis Claire et Maricia, elle décide d'appeler un taxi. C'est alors qu'elles sont enlevées par un homme au crâne rasé qui les séquestre dans un sous-sol mal éclairé. Le personnage mystérieux et inquiétant isole tour à tour chaque jeune fille dans une autre pièce, laissant les deux autres dans l'angoisse. Pris de soudains accès de rage, il disparaît aussi soudainement qu'il apparaît. Kazé se souvient alors de son enfance et des sorties en compagnie de son père et de son oncle chasseur éclairé. Elles mettent en place une stratégie qui va leur coûter cher. C'était ma sélection télé du jour. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous.
Et merci Manol. Perso, moi je choisis Aladdin à regarder en famille. Merci et à demain pour une nouvelle chronique sur la sélection télé d'Imanol.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Non, les nouvelles sont pas bonnes, mais dans mon cœur il fait beau. Alors j'ai délaissé le Rhône qui m'emportait comme un vieux tonneau. J'ai menti à personne, j'ai simplement fait un saut du côté de ces mômes qui vivent dans le Ferlot. Et là j'ai vu la vie sourire à la maman, et puis j'ai vu la pluie faire rire les bambins. Un ancien m'a demandé tu viens d'où, je lui ai dit j'arrive de chez les fous. Et là j'ai vu la vie sourire à la maman, et puis j'ai vu la pluie faire rire les bambins. Un ancien m'a demandé tu vas où, ramener un peu de vous chez nous. Non, les nouvelles sont pas bonnes, mais dans mon cœur il fait chaud. Alors, je préférais laisser les hommes se bousculer dans le métro. Et moi, je n'ai trahi personne, j'ai même laissé mon ego du côté de ces mômes qui vivent dans le Ferlot. Et là, j'ai vu la vie sourire à la maman, et puis j'ai vu la pluie faire rire les bambins. Un ancien m'a demandé tu viens d'où, je lui ai dit j'arrive de chez les fous. Et là j'ai vu la vie sourire à la maman, et puis j'ai vu la pluie faire rire les bambins. Un ancien m'a demandé tu vas où, ramener un peu de vous chez nous. Comme c'était bien, comme j'étais bien à vos côtés. Sur le bord du fleuve, j'ai vu vos mains me dire reviens, mais j'ai retrouver ma vie et dire à ma maman, tu sais j'ai vu la pluie faire rire les bambins.
Et mon enfant tu vas où?
Eh bien moi je rentre chez les fous. Et là j'ai vu la vie sourire à la maman, et puis j'ai vu la pluie faire rire les bambins. Un ancien m'a demandé tu viens d'où, je lui ai dit j'arrive de chez les fous. Et là j'ai vu la vie sourire à la maman, et puis j'ai vu la pluie faire rire les bambins. Un ancien m'a demandé tu vas où, ramener un peu de fou chez les. J'ai vu la vie sourire à la maman, et puis j'ai vu la pluie faire rire les bambins. J'ai vu la vie sourire à la maman, et puis j'ai vu la pluie faire rire les bambins. J'ai vu la vie sourire à la maman, j'ai vu la pluie faire rire les bambins. J'ai vu la pluie, et je rentre chez les fous, et je ramène un peu de vous chez nous.
C'était Christophe Maé avec J'ai vu la vie dans l'Occitanie sur votre radio chrétienne, avec ce soleil qui tape sur votre fenêtre près de Cahors.
À
L'essentiel de l'actualité régionale, c'est avec Emmanuel Hernandez. Bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
La présidente de la région Occitanie réclame au gouvernement des compétences dans le domaine de la santé.
Les agences régionales de santé n'ont pas les moyens d'agir. Tout est centralisé au niveau du ministère et cela pose un vrai souci, estime Carole Delga. Pour une meilleure organisation, elle propose donc de donner des pouvoirs aux régions. Il s'agirait d'établir des zonages prioritaires pour favoriser l'installation des professionnels de santé dans des territoires sous-médicalisés. La présidente de région demande au gouvernement la responsabilité de décider des ouvertures et fermetures des filières médicales et paramédicales, de décider du nombre de places de formation. Elle souhaite aussi obtenir la compétence sur la question des infrastructures pour la construction, l'entretien, l'équipement des CHU et des centres hospitaliers généraux, ainsi que pour les instituts de formation médicale et paramédicale.
Alstom remporte le marché de la troisième ligne de métro à Toulouse.
Alstom était en concurrence avec le groupe italo-japonais Hitachi, l'allemand Siemens et l'espagnol CAF associé au Thales français. Ce marché de 713 millions d'euros porte sur la construction du matériel roulant, du système automatique et de la maintenance de cette troisième ligne. Un tracé de 27 km qui passe du nord-est au sud-ouest de l'agglomération entre Colomiers-Gare et la Bège. Elle sera à 80% souterraine et permettra une jonction avec la ligne B à la station La Vache. Les rames d'Alstom mesureront 36 mètres de long, extensibles à 48 mètres pour 2,7 mètres de large et permettront de transporter entre 286 et 386 passagers.
La nef de la cathédrale de Montauban est fissurée.
Au regard des lézardes constatées, il semble que le massif occidental comprenant la façade, la tribune d'orgue et les deux clochers a connu très récemment un important mouvement structurel qui l'a désolidarisé du reste de l'édifice. Une dizaine de témoins en plâtre ont été posés pour vérifier si les désordres sont stabilisés. Une mission en urgence a été commandée pour que la cathédrale soit appareillée dans les meilleurs délais, un système d'alerte soit mis en œuvre et qu'un diagnostic structurel soit établi. Un récent référé préventif, décembre 2019, avait permis de constater le bon état sanitaire de cette partie de l'édifice. Notre-Dame de l'Assomption est une des rares cathédrales de France élevées à la période classique. Propriété de l'État, elle a été classée monument historique le 9 août 1906.
Les écoles de conduite manifestent aujourd'hui.
Les écoles des Hautes-Pyrénées souhaitent faire remonter leur colère au préfet des Hautes-Pyrénées devant le manque de considération de l'État. Un mot d'ordre, tout ou rien. Les moniteurs veulent savoir s'ils peuvent accompagner les élèves à l'examen et les accueillir dans les établissements pour le code et dans les véhicules pour la conduite en respectant un protocole sanitaire. Si ceci n'est pas possible, ils veulent être déclarés en fermeture administrative.
La CCI Aveyronnaise encourage le click and collect.
En effet, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron souhaite soutenir les commerçants du département obligés de fermer au public en raison du confinement et qui ont décidé de poursuivre leurs activités avec la vente en ligne à distance avec retrait en magasin ou livraison. Dans cette optique, la CCI fait réaliser deux affiches téléchargeables par les commerçants pour uniformiser et simplifier le message donné aux consommateurs et les sensibiliser à privilégier leurs commerçants locaux.
Le conseil départemental de Haute-Garonne maintient la gratuité de son offre culturelle numérique.
81 000 livres, c'est le chiffre du jour. 5 000 ressources musicales, 10 500 vidéos, 775 titres de presse, plus de 4 000 parcours de formation, mais aussi des cours de langue, d'informatique, de musique, de yoga, d'art plastique. Avec l'explosion de l'épidémie de Covid-19 et le nouveau confinement, le conseil départemental a décidé de maintenir la gratuité de son œuvre culturelle numérique à l'ensemble des Hauts-Garonnais. À l'exception des ressources cinéma, l'ensemble du catalogue est en accès libre.
Merci Manol, on vous retrouve en fin d'heure pour un autre point sur l'actualité de notre région.
La météo.
Pour cet après-midi, un temps très agréable dans notre partie d'Occitanie. Il fera 15 degrés de moyenne. Demain, vous aurez des éclaircies tout près du gouffre de Padirac. Le mercure montera jusqu'à 12 degrés. Ainsi que dans le Gers, 14 près du cinéma de Muret et 11 au parc national de Gavarnie. L'après-midi, un ciel voilé, 19 près du Lot, à Auch, 20 pour Lourdes. Là où il fera très beau, ce sera à côté du musée Soulages à Rodez où le thermomètre affichera 15 degrés.
Les cloches vont sonner, nous retrouvons Isabelle Honnel, direction le Gers.
Eh bien, nous partons dans le diocèse d'Auch, retrouver Monseigneur André Meynier, qui est le vicaire général. Bonjour, Monseigneur.
Bonjour, Isabelle. Et bonjour.
Comment allez-vous?
Ça peut aller, je vous remercie. Je vous remercie, bon. Malgré la fraîcheur qui s'annonce.
Bon, super. Alors, Monseigneur, confinement oblige, les événements sont peut-être réduits. En avez-vous à nous signaler malgré tout?
Et malgré tout, oui, voyez. C'est un événement qui concerne les chrétiens du diocèse. Pour refaire ce que nous avions fait déjà lors de la première du premier confinement, on propose à nos chrétiens qui le peuvent d'écouter, de suivre la messe quotidienne sur Internet, avec en prenant le site Diocèse d'Auch Facebook. Tous les jours à 11h30, la messe sera célébrée à la maison diocésaine par un des prêtres de la maison, et avec une brève homélie. Et ainsi, le diocèse pourra être en communion pendant tout ce temps-là, dans la prière, bien sûr, mais aussi avec quelques nouvelles venant du diocèse, dans la mesure où nous aurons des nouvelles.
Mais bien sûr, vous en aurez des nouvelles, et on espère des bonnes.
Espérons. Alors, s'il y a quand même une nouvelle qui n'est pas une nouvelle, puisqu'elle date d'il y a 15 jours. Il y a 15 jours, le jeudi 22 octobre, le matin, je donnais les nouvelles, mais il y en a une que je ne pouvais pas nommer parce qu'elle ne serait publiée qu'à midi.
Exactement, je vous vois venir.
Oui, un nouvel archevêque à Auch.
Bien sûr.
Bon, et nous attendons alors Mgr Garlès, donc, est atteint par la limite d'âge à 75 ans, comme le code le demande. Un évêque, comme un prêtre d'ailleurs, doit remettre sa démission, sa charge au pape ou à l'évêque s'il est prêtre. Et c'est ce qu'a fait Mgr Garlès. Et il était là depuis 15 ans, plus de 15 ans, dans le diocèse d'Auch, où il a été proche de tout le monde. Il va se retirer chez lui, dans son diocèse de Lyon, à Satonnet, où il a sa maison familiale. Et cette même information nous annonçait la nomination comme successeur d'archevêque d'Auch, Mgr Bertrand Lacombe, qui nous vient de Bordeaux, où il était auxiliaire de l'archevêque. Il devient donc maintenant archevêque lui-même à plein, et il est originaire du diocèse de Montpellier. Donc c'est un Occitan, il a même quelques racines éloignées dans le Cher, en Gascogne en tout cas. Voilà, il est donc l'archevêque nommé. Alors, l'inconnu, c'est sa nomination, parce qu'il est nommé, mais il ne sera effectivement archevêque qu'après la célébration de son installation, cérémonie qui sera présidée au départ par l'administrateur désigné, qui est l'archevêque de Toulouse. Hein. Mais au cours de cette cérémonie, sera lu la bulle pontificale, le décret du pape qui nomme Mgr Lacombe archevêque d'Auch. Ce décret sera lu devant ce qu'on appelle le collège des consulteurs, un groupe de prêtres désignés depuis longtemps, et devant les chrétiens. C'est une cérémonie publique qui annonce au peuple qu'il est un nouvel archevêque. Alors, quand pourra-t-on le faire? On avait pensé au 22 novembre, le dimanche 22 novembre.
Oui.
Et en principe, les célébrations sont interdites. Bon, c'est temps pour parler, on y travaille. Hein. Voilà.
Vous me donnez une transition toute trouvée, Monseigneur, puisque tout à l'heure, je serai en compagnie à 7h40 avec l'abbé Arnaud Ducheron et nous parlerons ensemble du processus de nomination des évêques. Le père Arnaud Ducheron, que vous connaissez, puisqu'il est également de votre diocèse. Un grand merci, Monseigneur.
Fait.
On a bien entendu ce que vous nous avez dit, la messe sur Facebook tous les jours. Et puis donc, cette information qui reste donc en suspens pour l'installation, mais confirmée naturellement pour la nomination, Monseigneur Bertrand Lacombe, nouvel archevêque d'Auch. Merci beaucoup, Monseigneur. À très bientôt.
Merci.
Demain, nous partirons demain à Albi pour notre tour des diocèses. Au revoir, Monseigneur.
Merci, Isabelle. Bonne journée.
L'aventure Église verte pour les communautés chrétiennes qui s'engagent dans le soin de la création. Laura Morosini.
Les prémices d'Église verte. Nous avons vu que l'initiative Église verte doit beaucoup à la mobilisation des chrétiens, protestants, catholiques, orthodoxes, anglicans, en amont de la conférence de Paris sur le climat. Avant d'aborder le lancement du label en septembre 2017, voyons quelles en ont été les prémices. Lors de la conférence de Paris, les efforts pour mobiliser la société française et les religions en particulier avaient été inédits. L'association internationale AVAZ, Nos Voix en français, qui fédère des dizaines de millions de personnes pour signer des pétitions en ligne, avait décidé de miser sur la mobilisation des religions. En effet, l'année précédente, lors de la grande marche de New York pour le climat, la plus grande mobilisation depuis la guerre du Vietnam, plus d'un quart des participants venaient d'organisations religieuses. En France, une vidéo avait réuni les plus hauts responsables des 6 principales religions et devait être diffusée à la veille du démarrage de la conférence. Mais les attentats ont mis à mal ces mobilisations et la grande marche fut remplacée par un rassemblement de chaussures, parmi lesquelles celle du pape François. Quant à l'accord de Paris, il avait bien été signé par 195 pays, ce qui était un succès. Il prévoyait bien aussi l'objectif de contenir le réchauffement à 1,5 degré, mais les moyens n'y étaient pas et les mesures contenues dans l'accord auguraient plutôt d'une augmentation de la température à 3,5 degrés. Aussi, après cette demi-victoire, a dominé une certaine hébétude. Que faire maintenant? Il a fallu quelques mois pour se remettre en selle. Ces mois ont permis à un petit groupe œcuménique d'étudier les outils déjà tentés pour mobiliser les paroisses. En 2014, en effet, Pax Christi avait envoyé à toutes les paroisses de France un document de 4 pages les incitant à prendre des actions écologiques. Veiller au chauffage, à l'éclairage, aux déchets, au covoiturage. De son côté, le réseau protestant Bible et Création avait diffusé en France des fascicules appelés « Éco-congrégation ». Troisième initiative, Chrétiens unis pour la terre, a porté une action concrète et plus spirituelle consistant à installer dans les églises des planisphères éclairés et à organiser des soirées de prière. Sur le plan plus global, une paroisse parisienne, Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant, avait défriché un projet de paroisse verte en installant des ruches, en accueillant un groupe de jeûneurs pour la terre, en mettant en place des alternatives aux couverts jetables et aux bouteilles d'eau lors de son grand événement annuel, le feu de la Saint-Jean. Et cette paroisse a fait des petits, car elle a raconté son expérience dans le quartier, et une autre paroisse, Saint-Gabriel, s'est mise en chemin, s'appuyant aussi sur la force de Laudato Si. Tout ceci a constitué un premier échantillon auquel s'ajouterait bientôt une dizaine d'autres pour élaborer le label Église verte.
Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Votre évangile commentaire arrive très très vite, dans moins de 4 minutes. Vous rentrez peut-être du travail pour faire à manger et vous souhaitez écouter la suite de votre radio préférée. Vous pouvez écouter le direct avec votre tablette ou votre téléphone portable. Alors soit sur le www.radioprésence.com ou téléchargez directement sur votre store l'application de votre radio. Le temps de faire tout ça, la voix d'un ange, Grégory Lemarchal avec Je suis en vie sur Présence. Il est actuellement 12h42.
Demain, on ne sait jamais si c'est encore loin ou bien trop près. On se dit qu'on aura tout le temps. Demain, on s'attend à tout, devenir quelqu'un ou devenir fou. Aujourd'hui, c'est moi qui grandis. Ça me plaît de plus en plus, ça me blesse.
Radio Présence à Toulouse, 97.9. L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur Jésus. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car je retrouvai ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous, réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, le chapitre 15 de l'Évangile de saint Luc débute par trois paraboles, ainsi appelées les paraboles de la miséricorde. La brebis perdue, la pièce de monnaie égarée et le retour du fils perdu et retrouvé. Et le point de départ de ces trois paraboles, c'est le fait que Jésus partageait ce repas avec les publicains et les pécheurs. Il y en avait qui ricanaient, qui parlaient contre lui, en disant « il fait bon accueil aux pécheurs et aux publicains ». Et c'est à partir de ce fait-là que Jésus déploie ces trois paraboles. Quel est le point commun, un des points communs de ces trois paraboles? Tout d'abord, je dirais la joie. La joie de retrouver ce qui était perdu. Dieu se plaît à nous retrouver. Dieu se plaît à nous rencontrer. Parce qu'il y a quelque chose qui est perdu en nous. Et c'est vrai, quand nous lisons la Bible, ce qui est perdu en nous, c'est cette communion avec lui et cette communion entre nous. Et Dieu se plaît à nous rencontrer pour... parce que cela est perdu, et parce que lui, c'est le Dieu de la communion et de la rencontre. Le deuxième trait en commun, nous venons de le dire, c'est la rencontre. Voilà le berger qui descend dans le ravin. Il laisse 99 brebis pour aller retrouver celle qui est perdue. C'était sans doute un berger riche. Avoir une centaine de brebis, c'est déjà pas si mal que ça. Mais en même temps, il y a cette femme qui a égaré une pièce de monnaie. Elle fait le ménage de la maison pour retrouver cette pièce de monnaie qui signifie peut-être pour elle un salaire. C'est une pauvre femme qui fait le ménage. Et puis finalement, dans la troisième parabole, que nous n'avons pas lu aujourd'hui, mais qui fait partie de ce chapitre 15, c'est ce père qui, tout le jour, monte dans la terrasse pour voir si son fils est déjà rentré ou s'il est déjà sur le chemin du retour. Dieu se plaît à nous rencontrer. Et il se plaît à nous rencontrer, comme nous venons de le dire, parce qu'il y a une blessure en nous. Non pas pour nous condamner, non pas pour nous juger. Je fais appel à vos sentiments de père, de mère, de prêtre, de prêtre. Quand quelqu'un, un fils, un ami, une personne que nous aimons est blessée, ou si ça ne va pas pour elle, nous ressentons au plus profond de nous-mêmes ce besoin d'aller le rencontrer, d'être tout proche d'elle. Mais non pas pour l'accompagner, non pas pour la condamner, mais pour l'accompagner. Cette présence de l'ami, de la mère, du père, du prêtre, nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, voilà que la parole nous parle de partager la rencontre. La joie de Dieu, c'est de pouvoir partager cette rencontre qu'il fait avec nous. Le berger va rassembler ses amis pour leur dire « Je retrouvais la brebis perdue ». La femme va trouver ses voisines pour leur dire « Voilà, je retrouvais cette pièce de monnaie qui était importante pour moi ». Et le père qui organise un repas pour fêter le retour de son fils. Tout cela, mes frères et sœurs, nous renvoie à l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, Jésus se plaît à nous rencontrer. Laissons-nous rencontrer par lui. Laissons-nous rencontrer par lui. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Prenez et mangez, prenez et buvez pour le pardon des péchés. Laissons-nous rencontrer par le Seigneur. Et puis, ça nous renvoie aussi à l'Eucharistie parce que le corps et le sang de Jésus nous est donné pour faire comme lui-même il a fait. C'est-à-dire pour aller rencontrer les autres comme il lui-même il nous a rencontrés. Demandons donc à Bernadette et à Marie. Marie se plaisait de rencontrer Bernadette. Et Bernadette se laissait rencontrer par Marie. Et cette rencontre entre ces deux femmes, c'était en vue de notre rencontre, celle du Christ. Et à Lourdes, dans un sanctuaire, ce que nous partageons, c'est la joie de la rencontre entre Marie et Bernadette, Bernadette et Marie.
Dans la vallée de la Garonne, 97.9.
L'essentiel de l'actualité avec Imanol Hernandez en ce jeudi à 5 novembre. Bonjour Imanol.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vos titres en Occitanie. La présidente de la région Occitanie réclame au gouvernement des compétences dans le domaine de la santé pour une meilleure organisation. Elle propose donc de donner des pouvoirs aux régions, comme la responsabilité de décider des ouvertures et fermetures des filières médicales. Alstom remporte le marché de la troisième ligne de métro à Toulouse. Ce marché de 713 millions d'euros porte sur la construction du matériel roulant, du système automatique et de la maintenance de cette troisième ligne. La nef de la cathédrale de Montauban est fissurée. Il semble que le massif occidental comprenant la façade, la tribune d'orgue et les deux clochers a connu très récemment un important mouvement structurel qui l'a désolidarisé du reste de l'édifice. Les écoles de conduite manifestent aujourd'hui. Les écoles des Hautes-Pyrénées souhaitent faire remonter leur colère devant le manque de considération de l'État sur leur situation. le conseil départemental de Haute-Garonne maintient la gratuité de son offre culturelle numérique, à l'exception des ressources cinéma, l'ensemble du catalogue est en accès libre. La radio numérique terrestre est lancée à Toulouse et à Montauban, son nom, le DAB+. À Toulouse, 39 radios vont émettre en DAB+, des radios locales ou régionales déjà présentes en FM dans la ville rose, comme Radio Présence et des radios qui ne sont pas comme Pyrénées FM.
Dans 3 minutes, votre météo en Occitanie. Et en cette période, il faut faire attention, bien évidemment. Amir vous invite à faire la fête, mais avec la distanciation sociale. Et son titre, La fête en Occitanie.
Levons nos verres sans raison. Il suffit de vivre, c'est bon. Mais c'est meilleur et c'est moins long. Avec un peu d'ivresse, viens, on se casse la voix. Viens, on se casse là-bas. Là où l'amour est toujours roi. S'inventer des princesses. Le patron te fait la misère. T'as le moral sur une civière. T'es encore fatigué d'hier. On réfléchira demain. Tant pis pour le cœur à moitié vide. Tant que des potes, on en a plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête, au pire on la fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais faite. Maison, tu peux t'inviter sans raison. Sois à l'aise comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse. Viens, on se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est les rois de la Havane. Havana, oh nana. Ton histoire d'amour bat de l'air. Dans ton café t'as mis du sel. T'es trop petit pour toucher le ciel. Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans le vide. Tant qu'on a le verre à moitié plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on la fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais faite. On a presque plus rien à boire.
Mais on est là.
Le bar va fermer, tout est noir.
Mais on, est là.
On continue sur le trottoir.
Mais on est là.
Hey.
On, est là.
Mmh.
On, est là.
On va encore rentrer trop tard.
Mais on est là.
Je crois que j'ai un œil au beurre noir.
Mais on est là.
J'ai encore cassé ma guitare. Je m'appelle Jimi Hendrix ce soir. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on l'a fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais faite.
Un rapide coup d'œil sur votre météo pour cet après-midi. Un temps très agréable dans notre partie d'Occitanie. Il fera 15 degrés de moyenne. Demain, vous aurez des éclaircies tout près du gouffre de Padirac. Le mercure montera jusqu'à 12 degrés. Ainsi, dans le Gers, 14 près du cinéma de Muret et 11 au parc national de Gavarnie. L'après-midi, un ciel voilé. 19 près du Lot à Auch, 20 pour Lourdes. Là où il fera très beau, ce sera à côté du musée Soulages à Rodez où le thermomètre affichera 15 degrés. Pour moi, pour ma part, je vous retrouve demain à midi et je vous laisse avec Radio Vatican, votre journal international en direct de Rome.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Une messe à la mémoire des cardinaux, archevêques et évêques défunts ces 12 derniers mois. Une...